20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Elle habite principalement en Chine, fait 5 à 6 mois de terrain par an et y repart après-demain. Elle a surtout réussi à quitter la grande plaine centrale, la plus étudiée en archéologie chinoise, pour s'implanter dans une terre pionnière, la plaine de Mandchourie, au cœur de l'Asie du Nord-Est. Elle vient aujourd'hui nous conter ses découvertes, celles qu'elle a réalisées avec ses confrères de l'université de la province du Jilin, parmi lesquelles plusieurs tombes à chambre de l'époque Liao Jin. Tout cela peut paraître quelque peu exotique et lointain aux auditeurs de France Culture. Pourtant, ces trouvailles nous entraîneront aussi en France à la recherche de la famille Déhan, dont elle vient de retrouver dans sa tombe un de ses ancêtres. Pauline Sébillou, bonjour.
Bonjour.
Jeune chargée de recherche au CNRS, vous dirigez la mission archéologique franco-chinoise dans le nord-est de la Chine, juste créée l'année dernière. Parallèlement, vous enseignez à l'université de Jilin et la majorité de vos publications, peu accessibles, sont en chinois. Pauline Sébillou, voici bien longtemps que la Chine est éveillée. Une Chine qui s'ouvre à l'archéologie et à la collaboration internationale ?
Oui, en effet. Il y a beaucoup de chantiers en Chine avec une grande tradition de pratique au moins depuis les années 50 au niveau national avec des instituts d'archéologie au niveau provincial et de nombreuses universités. Je pense qu'il y a des milliers de chantiers par an aujourd'hui et de plus en plus de collaborations internationales.
Donc il n'y a pas que la tombe et de Tsichewanti, le Mont Li et ses fameux soldats.
Non, loin de là en effet.
Pourquoi avez-vous choisi une région marginale, la plaine de Mandchourie ? En quoi est-elle réellement intéressante ?
Eh bien, après ma thèse sur la plaine centrale, c'est-à-dire le fleuve jaune, la région du fleuve jaune au néolithique et à l'âge du bronze, j'ai choisi cette région. C'est le nord-est de la Chine, c'est les provinces du sud au nord, du Liaoning, du Jilin, du Heilongjiang et tout ce qu'il y a à l'est de la Mongolie intérieure, c'est-à-dire en fait la province du Jilin est à l'ouest de Vladivostok et au nord de la Corée du Nord. Et c'est un endroit où aujourd'hui il fait moins 30, moins 20 en hiver, plus 30, plus 35 en été, avec des déserts à l'ouest, une plaine au centre et des montagnes tout à l'est. Donc une topographie intéressante. Bon, loin des régions où on trouve des trésors ou des bronzes, tels qu'on peut les voir au musée Guimet ou au Tchernouski à Paris. Mais avec une très grande université, l'université du Jilin à Changchun, et de grandes bibliothèques où comme il fait très froid, beaucoup de recherches de collègues. Et c'est donc un milieu marginal, assez inhospitalier. La Mandchourie, ça fait penser aux grandes forêts. Le Jilin, ça veut dire forêt auspicieuse. Donc il y a une époque où c'était couvert de forêts. Aux terres d'exil judiciaire, des bagnards, des Ming ou des Qing. Mais aussi à des souvenirs moins agréables pour les Chinois d'occupation japonaise. Voire du 19e siècle en France, Mandchourie, c'était juste un nom comme Tartarie pour désigner la terre des Mandchous, comme la terre des Tartares, voilà.
Jean Guilaine en parlait voici peu. Vous travaillez sur la longue durée, sur les dynamiques de peuplement de cette région frontalière. Pourquoi ne pas choisir, par exemple, une période particulière, le Moyen-Âge, le Néolithique ?
En effet, moi j'ai été formée sur du Néolithique et de l'âge du bronze, donc c'est ma spécialité. Mais quand on commence à faire du terrain et qu'on fait aussi de la prospection pédestre, on s'aperçoit que sur ces régions dont le paysage a beaucoup changé à travers les siècles, il est intéressant de voir les différentes solutions d'habitat qu'ont développé les peuples successifs pour vivre de manière plus ou moins nomade et plus ou moins sédentaire dans un endroit où il faut avoir différentes solutions de chauffage et d'alimentation, alors que l'hiver dure vraiment très longtemps, plusieurs mois, et très rude. Donc, Maintenant, moi, je fais beaucoup de SIG, de cartes, d'analyse spatiale, et c'est intéressant de voir, de comparer les différentes époques, les choix d'implantation des sites à différentes échelles. Ensuite, à l'échelle peut-être micro-régionale, de voir à différentes périodes l'intensité d'occupation des paysages par rapport à l'avancée de certaines régions désertiques, au recul de certains marais, des forêts, etc., et de voir l'implantation à l'époque médiévale de solutions d'habitat sédentaire, de maisons, avec des systèmes de chauffage assez complexes, où en fait, à partir d'un foyer dans les cuisines, on pouvait dormir sur des plateformes en briques qui étaient chauffées à l'intérieur de la maison, qui fait que là, on peut avoir un habitat d'agriculteur sédentaire, finalement, assez tard pour ces périodes-là. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir comparer les périodes sur une même région.
Voilà. Justement, donc, plongeons dans vos découvertes dans la région de Becheng. Vous avez trouvé toutes les époques. Que donne cette dynamique du peuplement ?
Donc, entre 2011 et 2015, autour du site de Rotaomuga, qu'on a fouillé par 5 campagnes successives, et autour de 2 lacs qui sont dans une région lacustre autour de la rivière Nen, qui est au nord-ouest de la province du Tilin, qui fait la limite avec le Heilongjiang. On a choisi cet emplacement pour faire une prospection pédestre. On a examiné les vestiges au sol de toutes les périodes et on s'est aperçu que au néolithique très ancien, entre 10 000, 8 000 avant notre ère, il y a quelques habitats, mais peu, qui exploitaient principalement les coquillages, les grosses moules d'eau douce de ces régions lacustres, sur les points les plus hauts. Et dans ce paysage très plat, il y a peu de points hauts, donc il y a peu de sites, mais il y en a. Ensuite, au néolithique moyen, on a des habitats qui semblent saisonniers. Et ensuite, au néolithique ancien, des villages avec des fossés d'enceinte, dont le site de Rotaomuga, avec une double enceinte, dont un fossé, pas large, 40-50 cm de large, et rempli d'eau de bovidés sauvages. Donc on voit une importante pratique de la chasse, sûrement à certaines saisons où les troupeaux passaient par là. Ensuite, on voit l'implantation de cimetières de l'âge du bronze qui sont loin, très séparés des zones de villages d'habitat, avec des maisons, avec des foyers plus développés et des canalisations en terre. On voit un début de développement des systèmes de chauffage. Ensuite, il y a une baisse absolue, on trouve presque plus de sites vraiment. On trouve quelques tessons épars pour les premiers siècles de notre ère, pour ce qu'on dirait la fin de l'âge du fer ou le haut Moyen-Âge. Vraiment très très peu, on voit pas d'endroits. Il y a quelques tombes, mais pas d'endroits qu'on pourrait vraiment qualifier de sites d'implantation.
Et une sorte d'âge sombre ? On n'en sait trop rien encore.
Où, les sites principaux des nomades doivent pas être près des lacs où on a regardé, quoi. Peut-être qu'ils sont ailleurs, en tout cas plus éloignés les uns des autres.
Vous avez aussi trouvé, Pauline Sébillot, parmi les plus anciennes céramiques d'Asie du Nord-Est.
Donc oui, à Rotaomuga, sous la direction de Wang Lixin, donc c'est un chantier qui est en coopération avec l'Université du Jilin et l'Institut provincial du Jilin. Les plus anciens niveaux, qui datent d'environ 10 000 à 12 000 BP, donc c'est du 10 000, 8 000 avant notre ère. Ce type de terre cuite, très épaisse, d'un centimètre d'épaisseur, avec un dégraissant végétal et un décor à l'extérieur, c'est toutes des très grandes formes qui ont été chauffées au fond et qui sont rapprochées de ce qu'on trouve à l'est du lac Baïkal, en Russie, de ces céramiques de Gontcharka, de ces sites-là, de ces cultures-là.
En tout cas, c'est parmi les plus vieilles. C'est donc quelque chose d'absolument capital pour même l'archéologie dans le monde.
Oui, en tout cas au centre de cette Asie du Nord-Est ou au sud de la Chine, on a découvert des tessons qui ont des datations vraiment extrêmement anciennes. C'est du 18 000 avant notre ère, enfin c'est vraiment très ancien. Au Japon, avec c'est l'ancien Jomon, le Jomon plus ancien, en Corée, en Russie. Puis ça permet d'ajouter un point sur la carte. Il n'y avait rien dans le Nord-Est de la Chine, mais il y a sûrement d'autres sites. On en a trouvé ensuite de l'autre côté du lac à Zhenlai avec ce même type de céramique-là. Donc il y a quelque chose à voir dans le rapport de ces cultures archéologiques, puisqu'elles sont toutes liées par des rivières qui traversent des lacs. Donc là, on étudie cet endroit-là qui a l'air d'être assez important pour la naissance de la de la terre cuite.
En tout cas, depuis les années 60, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Russes aussi travaillent sur l'émergence de cette poterie. On peut penser que ces populations étaient déjà sédentaires. Est-ce que l'on peut déjà parler de néolithique ?
Alors, à partir du moment où on trouve des poteries, en Chine, on parle de néolithique ancien, elles sont développées dans des contextes d'économie de chasse, de chasseurs-pêcheurs, donc vraiment dans des groupes qui sont très proches des milieux aquatiques. Et a priori, on pense pas qu'ils soient vraiment sédentaires. En Russie, on a découvert un site où on a pu montrer, d'autres chercheurs ont pu montrer que les céramiques étaient produites quand les groupes étaient au bord de la rivière, peut-être aux saisons, au printemps ou en été, et qu'ensuite ils remontaient plus en altitude. Donc c'est peut-être des occupations saisonnières. Ils venaient en tout cas à Rotaomuga pour pêcher ces gros coquillages qui sont tous, par analyse qu'on a montré, qui étaient tous pêchés au printemps.
Des maisons néolithiques, vous en avez fouillé, ce que vous appelez des fonds de cabane. Comment se présentent-elles, ces maisons ?
Donc pour le néolithique moyen, pour des périodes d'environ 4000, 5000 avant notre ère, ça commence avec des structures semi-enterrées, donc qu'on trouve arasées, donc on ne sait pas à quelle profondeur elles avaient, mais quelques dizaines de centimètres ou plus, et avec des trous de poteaux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'était des structures en bois, avec sans doute des murs en torchis et en fibres végétales. C'est des milieux lacustres, il y a beaucoup de roseaux, donc un toit en végétal, et un foyer au milieu, et une entrée soit avec des petites marche, soit en rampe, en pente douce, qui peuvent faire quelques dizaines de mètres carrés, de 20 mètres carrés à 80 mètres carrés.
80 mètres carrés, c'est énorme pour une population néolithique.
Oui, à Rotaomuga, on en a trouvé une ou deux comme ça, de structures assez grandes pour du néolithique final, vers 3000, 2000 avant notre ère, et à Changshan pour du néolithique moyen. La plus grande, 85 mètres carrés, a été rénovée à plusieurs reprises. Elle a dû être occupée pendant plusieurs générations. Il y a vraiment plus de 100 trous de poteaux, plusieurs foyers, avec un amas coquillé sur le côté, avec l'objet qu'on a trouvé le plus étrange en 2017, qui est une figurine, enfin un objet quadrangulaire avec un visage sur une face, qui était à côté d'un amas coquillé dans cette grande maison. Dont les trous de poteaux, la distribution des trous de poteaux en carré intérieur-extérieur et avec un carré à l'intérieur ferait penser à ce qui est peut-être un étage ou une tour. Elle était au bout d'une colline, il y avait une vue sur la vallée de la Dong Liao absolument imprenable, et elle doit avoir peut-être une fonction différente, pas forcément domestique.
On peut y voir un objet d'art ?
Celui-là, oui, je pense qu'on peut y voir un objet d'art.
Plus tardif, vous êtes aussi intéressé à des mines de cuivre de l'âge du bronze, à des tombes de l'âge du bronze ?
Alors, dans l'est de la Mongolie intérieure, avec Wang Lixin, donc de l'université du Jilin, et Li Yanxiang, un spécialiste de la paléométallurgie, en 2011, on avait fouillé une mine a priori de cuivre qui date de 1000-1200 avant notre ère. Et pour la région de Baichang ou de l'ouest de la province du Jilin, ces habitats au néolithique final ont été abandonnés. Et puis pour entre la fin du deuxième millénaire avant notre ère et le premier millénaire avant notre ère, il y a des cimetières qui s'installent avec une personne dans chaque tombe en général, ou plusieurs, et des céramiques à la tête du défunt.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Dans cette approche de la longue durée, les périodes historiques vous intéressent aussi. En 2014 et 2015, vous co-dirigez les fouilles du site de Yingjiao Wopu. Qu'avez-vous découvert ?
En effet, au bord de ces lacs, encore une fois, tout près de Rotaomuga, une coopération entre l'université du Jilin et l'institut provincial du Jilin. Il y avait des monticules au bord de l'eau, et on pensait que c'était des soubassements d'architecture parce que ça arrive dans la région. Et en fait, une fois coupé ce monticule, on s'est aperçu qu'on a trouvé les structures, à mon avis, les plus surprenantes que j'ai fouillées, qui sont des fosses de lixiviation qui ont été identifiés par Wang Qing de l'Université du Shandong et Olivier Veller du CNRS de Trajectoire, qui se présente comme une grande fosse rectangulaire peu profonde où il y avait un système avec des planches, sûrement des roseaux, de la cendre, où on mettait de la terre salée qu'on récoltait sur les rives du lac, où il y a des zones de terre salée, et par-dessus on mettait de l'eau. L'eau passait, tel un gros filtre à café, par la terre salée, et s'écoulait par un petit trou dans une peu plus petite fosse, plus profonde, donc on obtient de la saumure. Qu'on pouvait faire bouillir. Ensuite, en 2015, on a trouvé une partie du village. On a trouvé des fours où sans doute ils faisaient bouillir cette saumure pour obtenir du sel.
On est à quelle époque à peu près ?
12e siècle. Donc dans l'époque Liaodin, qui est 10e, 13e siècle, l'époque Jin.
Est-ce que c'était une activité très contrôlée, ce fameux sel, comme cela peut être le cas dans de nombreuses sociétés au cours de l'histoire ?
D'après les textes chinois, dans les textes légaux pour toutes les dynasties, et au moins à partir des Han, mais même on en a des mentions pour les premiers textes Shang, d'un contrôle de l'administration du sel par l'État. Et il y a des mentions d'amendes ou de peines juridiques pour les gens qui produiraient du sel à titre privé. Donc c'est sûr que ça devait être soumis à un certain contrôle.
Est-ce que l'on connaissait d'ailleurs cette production du sel durant cette période médiévale ? C'est un sujet d'archéologie qu'on connaît bien en Europe, mais en Chine ?
En Chine, l'archéologie du sel a été une problématique au Sichuan, où il y a des puits à sel, étudiés notamment par Rohan Flad, le professeur von Falkenhausen, aussi du sel de mer au Shandong, qui est l'équivalent de la Bretagne de la Chine, quoi, c'est le Finistère de l'autre côté, complètement à l'est. Donc ça, c'est du sel de mer. Et dans le nord-est de la Chine, on avait des mentions dans les textes historiques, justement, du XIIIe siècle, qui disaient qu'il y avait du sel dans la région du Jiaodong, donc dans le sud du Heilongjiang, vers cette rivière Nen. Et c'était pas vraiment bien compris par les historiens, jusqu'à ce qu'on trouve ces exploitations de sel médiéval et on comprenne qu'ils parlent du sel du Jiaodong, donc de cette région, qui est en fait du sel obtenu par le filtrage de terre salée.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Pauline Sébillot, chargée de recherche au CNRS, ces fouilles en plaine de Mandchourie réalisées avec l'université chinoise de Jilin. Plus étonnant est la fouille de sauvetage de deux tombes à chambre découvertes dans ce qui pourrait être un petit bois.
Oui, en effet. Ce type de structure pour le 10e, 13e siècle est assez courant dans le nord-est de la Chine. C'est-à-dire que les gens à l'époque creusaient une grande fosse avec une rampe inclinée, avec ou sans marche, et à l'intérieur, donc par cette rampe, amenaient des briques et construisaient une sorte de petite maison en briques avec quatre murs et un dôme, où parfois les tombes aristocratiques peuvent avoir plusieurs salles, avec un couloir et une porte. Et ensuite, une fois que les objets étaient mis, que la cérémonie funéraire avait été faite, ils rebouchaient la rampe, la fosse, et du coup, ces structures ont été préservées sous terre. Alors que le patrimoine architectural médiéval a été très peu préservé en Chine, il y a très peu d'architecture de ces époques-là, 10e, 13e siècle, qui ont été préservées. Ces tombes qui ont été la plupart pillées n'ont pas été complètement détruites, donc ça nous donne à la fois des informations sur les coutumes funéraires des élites de cette époque-là, les savoir-faire architecturaux, mais aussi les échanges techniques et d'objets sur d'assez longues distances. Malheureusement, la majorité de ces structures ont été fouillées lors de fouilles de sauvetage, une par une, pour lesquels il y a peu de budget pour les analyses ensuite, donc qui rendent difficiles les publications. Mais cette année, juste à Shenyang, a été fouillé un groupe de tombes à chambre en briques. C'est la première fois qu'on en fouille un cimetière, ou au moins une partie, avec une non pillée.
Et les vôtres, étaient-elles pillées ?
Oui, oui.
Donc pas grand-chose dedans ?
Alors la première, on a trouvé à Dongmengyi, donc à Shuangliao, dans l'ouest de la province du Jilin, plutôt vers le sud, une tombe qui avait été assez mal pillée. Il y avait une petite architecture en bois à l'intérieur qu'on appelle une xiaozhang, qui avait été aménagée, donc c'est des tombes sans cercueil, mais là avec ça, deux personnes à l'intérieur qui avaient des éléments de leur costume, des boutons, des perles en bronze, des éléments de parure, une boucle d'oreille en or et des céramiques. Il y avait un mouton, le squelette d'un jeune mouton, et un bol en argent, un miroir en bronze, donc celle-là mal pillée. La deuxième, celle de Hamatine, très pillée.
Que sait-on justement sur cette période médiévale liée au djinn? On serait entre le Xe et le XIIIe siècle?
Oui, les tribus Khitans de l'est de la Mongolie intérieure s'unissent vers la fin du Xe siècle et créent une dynastie, le premier empereur étant Abaodi, qui a une distribution est-ouest de tout ce qu'on pourrait appeler la Mongolie intérieure et République de Mongolie aujourd'hui, jusqu'à Vladivostok, une bande comme ça, où ces nomades militaires contrôlaient les lieux et ont commencé à construire des villes, ce qui est étonnant pour des nomades militaires, où ils abritaient et ils contrôlaient les populations locales, qui est en fait un mélange d'anciennes populations du haut Moyen-Âge, de ce qu'on appelle le Borai, qui était près dans la région de Dalian, dans le golfe près de la Corée du Nord, des montagnes qui font la frontière avec la Corée du Nord, enfin des populations qui étaient là avant.
Vous avez aussi travaillé sur une ville Ming, Jurchen.
Voilà, les Jurchen ont fondé la dynastie Jin ensuite au XIIe, XIIIe siècle, mais ont été une population qui était encore là. Et au XVe, XVIe et début XVIIe siècle, ils sont divisés en plusieurs tribus, ils ont des villes royales. Et l'Institut archéologique du Jilin a fouillé la ville de Huifachang, qui est une ville royale avec des tombes, des architectures, des fortifications.
Et vous y trouvez la permanence de pratiques chamaniques.
En effet, on a découvert ces cloches de ceinture, donc là, enfin, 15e, 16e siècle, qui ont la même forme que des pendeloques qu'on trouve à la fois pour les périodes précédentes et pour les périodes suivantes, et qu'on trouve aussi en Russie, et jusqu'à aujourd'hui, qui ornent les ceintures des personnes qui font des rites chamaniques, et quand elles dansent, ça fait des bruits qui imitent les bruits naturels, par exemple le bruit du vent, le bruit du tonnerre, etc. Donc ça se danse avec un tambour et plein de brelas qui pendent des vêtements et qui font du bruit. Donc,
Pauline Sébillot, le chamanisme a-t-il encore un rôle dans cette plaine de Mandchourie?
Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de population manchoue, mais dans certaines villes, par exemple à Yitong ou dans la ville de Jilin, il y a des musées de la culture manchoue et quelques familles qui font perdurer certains rites.
En tout cas, cette ville, qui est une ville bien sûr dans une zone de marge, est une ville avec des fonctions militaires.
Voilà, Huifachang avait 30 ou 3 enceintes, on y a trouvé des armes. Et elle était à un emplacement, un croisement de rivière sur un emplacement très très stratégique.
Venons-en à l'incroyable. Voici peu, des tombes apparaissent après de fortes pluies dans le district de Lishu. Vous intervenez?
Voilà. Le site de Pianlianchang dans le district de Lishu est classé au niveau national. C'est une grande ville médiévale d'1 kilomètre de côté avec des douves de 20 mètres de large, un mur qui fait encore en terre damée, hein, qui fait encore 6 à 7 mètres de haut. Et à l'extérieur de la porte ouest, qui a encore son aménagement en fer à cheval de protection, de fortification, et à l'extérieur du fossé d'enceinte, après de grosses pluies sont apparues des tombes en surface. Et donc on nous a demandé d'intervenir et on a trouvé un cimetière du fin 19e siècle, début 20e siècle.
Sur 1000 mètres carrés et sur les 10 000 mètres carrés que comprend donc ce cimetière, vous fouillez 40 tombes et dans l'une, vous découvrez un objet tout à fait extraordinaire.
Voilà, c'est sûrement la découverte la plus surprenante que j'ai faite, une médaille miraculeuse, une petite médaille d'un peu plus d'un centimètre de diamètre avec écrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».
En chinois ?
En français, et c'est ça qui était vraiment absolument étonnant pour la première collaboration franco-chinoise dans le nord-est de la Chine. On était 3 Français sur le site et au début j'ai cru à une blague, en fait une blague d'archéologue. J'ai cru que c'était un collègue qui l'avait mis là. On n'en a rien pensé au départ. Jusqu'à ce que l'anthropologue nous amène l'observation de la partie faciale du crâne et nous dise « mais le propriétaire de la tombe 14 est un Européen ».
Vous aviez combien de tombes en tout et pour tout ?
On en a fouillé une quarantaine, il en reste encore beaucoup, mais comme c'était une fouille de sauvetage, on n'a pas pu faire tout le champ, tout le cimetière.
Et ces tombes étaient-elles différentes des tombes traditionnelles chinoises ?
Au départ, ce qui nous a surpris, c'est l'alignement. Habituellement, les tombes du 19e siècle en Chine sont plutôt alignées en triangle, si vous préférez, le premier ancêtre au-dessus, ensuite en dessous, s'il y a une pente en dessous, c'est deux fils, leurs deux fils, leurs deux fils. Alors que là, c'était deux grandes lignes de tombes, en général avec la tête vers le nord-est. Un effectif aussi étrange, il y avait deux tiers de femmes de 20 à 30 ans, peu d'enfants, tous au-dessus, enfin d'immatures au-dessus de 12 ans, et un tiers d'hommes de 30, mais surtout 60 ans. Elles étaient aussi, il y avait peu de mobilier par rapport aux tombes qu'on connaît de la même époque.
Donc vous voici avec cette médaille miraculeuse, d'où vient-elle ?
Là, on tombe, c'est le départ dans la plongée un peu de l'autre côté du miroir, dans des types de documents dont je suis absolument pas spécialiste. D'une part, les annales locales, les monographies locales chinoises, donc dans les textes qui concernent la région de Lishu. On a trouvé des informations, puis dans les archives paroissiales de la maison diocésaine de Rennes, grâce à l'aide de François-Xavier Lemercier, puis dans les registres d'état civil, dans les comptes rendus et les annales de la Société des Missions étrangères de Paris, et finalement dans la micro-histoire d'un parcours individuel et de mémoire familiale du premier prêtre de Lishu, qui est un missionnaire des MEP, des Missions étrangères de Paris.
C'est-à-dire que cette médaille miraculeuse viendrait de la rue du Bac à Paris ?
Fort probablement, oui.
Vous y êtes allé ?
Oui, donc je suis allée au siège des Missions étrangères de Paris et à la chapelle de la médaille miraculeuse qui se trouve dans le couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul à Paris, qui a encore un haut lieu de pèlerinage aujourd'hui à Paris, étonnamment. Malheureusement, les archives des MEP sont fermées en ce moment.
Alors qui est cet individu de la tombe 14 ?
A priori, ce serait Armand-Joseph Déhan, qui est né en 1866 à Saint-Germain-en-Cogles, en Ille-et-Vilaine, qui était au séminaire à Rennes, qui a ensuite été aux Missions étrangères de Paris, et puis qui a été envoyé, une fois qu'il a été fait prêtre, missionnaire, en Mandchourie. Et il est mort à Lishu en début 1899, après avoir demandé à laisser sa dépouille mortelle aux soins de ses néophytes, donc de ses croyants, qu'il avait convertis à Lishu.
Armand-Joseph Déhan, donc, décède à l'âge de 33 ans au cœur de la Chine. Vous avez tenté de retrouver sa famille ?
Oui, grâce aux archives paroissiales, au registre d'état civil, en remontant et redescendant son arbre généalogique, j'ai rencontré les petits-enfants de son grand frère, ses petits-neveux, qui conservaient des lettres que Armand-Joseph avait écrites à sa famille, donc à son père, à sa sœur et à ses frères, entre son départ fin 1890 et fin 1898.
Donc, vous allez peut-être faire de l'ADN, du coup.
Voilà, on a pu prendre des échantillons et on va pouvoir comparer pour être sûr qu'il s'agit bien de cette personne.
Ce cimetière est donc celui d'une communauté chrétienne de Lishu au tournant du XXe siècle. Mais que sait-on sur ces communautés chrétiennes en Chine ?
Pas mal de choses. En fait, il y a eu certaines recherches qui ont été menées en histoire. Hein. Les missionnaires des MEP ont été bien étudiés. Ils avaient une stratégie différente de celle des jésuites. Les jésuites, au 16e, 17e, essayaient de convertir les membres des élites et de l'aristocratie chinoise et avaient déjà traduit tous les livres, la Bible, les bréviaires, etc. en chinois et avaient fondé des familles, il y avait des familles chrétiennes. Ensuite, il y a eu un moment de fermeture de la Chine aux missionnaires et puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec le renouveau catholique, on envoie beaucoup de missionnaires français dans certaines régions de la Chine définies par le pape, simplement, dans le vicariat de Mandchourie. Et les missionnaires, de chercher les anciennes familles chrétiennes et donc pour bien refaire les rites, etc. Mais ça avait l'air d'être pas facile selon les lettres de Déhan, ça a l'air d'être pas évident de rechercher les familles chrétiennes et d'aller les voir pour leur donner l'extrême onction, faire les baptêmes, etc.
Pauline Sébillot, merci beaucoup. Et puis surtout, tenez-nous au courant. Carbone 14 était réalisé par Delphine Lemaire et à la technique Alain Joubert et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, changement de décor, changement de temps.